Chapitre 5. Un tête-à-tête interrompu. Jack manque absolument de galanterie. Une confidence forcée suivie d'une grande intimité. Un petit cercle composé de gens heureux. Pendant ce temps-là, les deux amis atteignaient enfin leur destination, mais à une heure si indue que les côtelettes de veau se trouvaient être réduites en cendres et Miss Louisa dans un état aussi violent que le comportait sa placide nature. Naturellement, la soirée se passa en mutuel chuchotement entre Miss Mathilda et Patty. La bonne Louisa ne les gênait guère, tout absorbée qu'elle était par les mystères inextricables d'un point de tricot nouvellement inventé. Le lendemain, le temps était si beau que ce fut la tranquille, la laborieuse Louisa elle-même qui proposa à ses deux compagnes d'aller entendre la musique militaire. Mais ceci ne faisait pas du tout l'affaire de Patty. Elle avait décrété avec son amie qu'elle simulerait un fort mal de gorge ce matin-là et que Mathilda emmènerait sa sœur sous le prétexte de forcer Patty à ne pas parler. Bref, tout avait été si bien manœuvré qu'à 2h10, Miss O'Donaghue, parée avec le plus grand soin de ses splendides neuroses, était assise sur le sofa des demoiselles Perkins, ses belles boucles brunes folâtrantes autour de sa jolie figure et ses yeux brillant encore plus que d'habitude. Comme 2 heures sonnaient, le marteau de la porte de la rue retentit, un pas vif et jeune se fit entendre dans l'escalier, on annonça « Monsieur John Steady » et le Jack bien-aimé de Patty était devant elle. Quoique le jeune homme ne fût plus en uniforme, elle le trouva 1000 fois plus beau encore, et dans son ardeur à lui souhaiter la bienvenue, elle avait déjà atteint la porte avant qu'il eût achevé d'en franchir le seuil. « Oh, mon cher Jack » s'écriait-elle. « Je suis si contente que vous soyez venu. Je me suis arrangée de façon à être seule, afin de pouvoir bien causer. Que de temps passé depuis que je vous ai vu partir dans cet affreux bateau à Sheerness. N'êtes-vous pas heureux de me revoir, Jack ?»«
Certainement, ma chère Miss Patty, » répondit le jeune homme. « Et êtes-vous toujours resté à Londres depuis votre arrivée ?»«
Oh non, » répliqua Patty en s'asseyant sur le sofa, tandis que son compagnon prenait un siège vis-à-vis d'elle. « Nous avons été à Brighton pour rejoindre des grands personnages de la famille de maman. Il y en avait une quantité, des hommes, des femmes, des enfants. Mais voyez-vous, dans tout cela, il ne s'est trouvé personne qui me plût autant que vous, Jack. »«
Vous êtes vraiment trop bonne, » répondit le jeune homme en rougissant un peu et en s'arrêtant comme quelqu'un qui ne trouve plus rien à dire.
« Ah, grand Dieu, je ne puis appeler cela être bonne, puisque je ne puis m'en empêcher. Vous ne pourriez pas aimer quelqu'un autant que moi, Jack. N'est-ce pas que vous ne pourriez pas ?»«
Il est certain que personne au monde ne mérite mieux d'être aimé. Vous avez si bon cœur. »«
Si bon cœur ? Est-ce là tout ce que vous trouvez à dire ? Ah bien, je ne donnerai pas un penny de quelqu'un dont on ne trouverait que cela à dire. » « Oh, Jack, ne vous souvenez-vous plus de votre chute dans la mer et de la personne qui a pris soin de vous après ? Et notre jeu de billard ? Et cette idée que vous aviez de vouloir avoir l'air d'un simple matelot ? Ça, par exemple, je n'y ai jamais cru, moi. »
Ma chère Miss O'Donaghue commença à dire M. Sidé, mais la jeune personne l'arrêta court.
« Une fois pour toutes, Jack, je ne veux pas que vous m'appeliez Miss O'Donaghue ou Miss Patty. Rappelez-vous bien cela, s'il vous plaît. Vous aviez l'habitude de m'appeler Patty tout court, et c'est Patty que je veux vous entendre dire. Moi, je vous appellerai Jack quand nous serons seuls, mais devant le monde, je suppose qu'il me faudra dire Monsieur Stidé. »
Ici, malgré tous ses efforts pour garder son sérieux, le jeune homme partit d'un éclat de rire, et sa compagne, sans comprendre positivement la cause de cette gaieté, se mit à en faire autant de tout son cœur. Puis, tout à coup, elle s'élança du sofa où elle était assise, saisit une paire de ciseaux qui traînait sur la table et, tout en gambadant, alla se placer derrière la chaise de M. Sidé, d'où elle lui criait avec autorité
« Regardez droit devant vous et ne bougez pas, M. Jack. Autrement, je vous coupe le cou, ma parole d'honneur. »
« Que voulez-vous faire, cher enfant ?» dit le jeune homme, qui, désobéissant, se retournait vers elle.
« Faites ce que je vous ordonne, » dit Patty, « et il ne vous arrivera aucun mal. Voyez plutôt, n'ayez pas l'air si effrayé.
L'échange n'est pas le vol. » Et, ainsi disant, la pétulante jeune fille introduisait sans miséricorde, entre les branches des ciseaux reluisants, une des belles boucles qui ornaient sa propre tête, l'en détachant ainsi pour jamais. « Maintenant, Jacques, regardez-moi cela. N'est-elle pas jolie, cette petite boucle ?» Et, lui laissant tomber le petit objet plutôt sur la main que dedans, elle saisit le moment où il ne pouvait manquer d'y faire quelque attention pour opérer de la même façon sur la chevelure châtain du jeune homme, laissant derrière l'oreille gauche, à la place où elle avait commis son larcin, un fort vilain vide.
« Ah ah, monsieur Jacques, qu'est-ce que vous dites de cela ? Je suis toujours la même drôle de fille, n'est-ce pas ?» dit Patty, qui d'un bond venait se placer devant lui, tandis qu'elle brandissait sa proie d'un air de triomphe.
« Oh, Patty, voici qui est bien ridicule. Que dirait votre mère ?» dit le jeune homme en se levant, semblant vouloir à tout prix, soit par la ruse ou par la force, annuler cet échange de boucles de cheveux. « Voyons, soyez sage, jetez cela. Une belle et grande fille comme vous ne doit plus agir comme une enfant. »
« Jetez cette boucle ? Vous jetteriez la mienne, vous ? Quel méchant vous faites ! »
Et elle s'approchait de lui avec ses façons câlines, tenant son butin bien serré dans une main, tandis que, de l'autre, elle parvenait très habilement à faire tourner autour des doigts de Jack la boucle qu'il tenait encore.
« Voyons, est-ce que vous ne la trouvez pas jolie ? » disait-elle en le regardant sous le nez avec un sourire suppliant.
« Si, vraiment, elle est fort jolie, et vous aussi, Patty, » dit le jeune homme, qui, poussé à bout, se laissa aller à saluer un peu cavalièrement la joue fraîche qu'on plaçait si près de ses lèvres. Précisément au moment où il se permettait cette incartade et où Miss Patty, fort peu courroucée de son audace, riait de tout son cœur, la porte s'ouvrit et M. et Mme O'Donoghue parurent. Naturellement, il y eut tableau, et pendant une demi-minute, pas une parole ne fut prononcée. Patty, la première, retrouva et son courage et sa langue, et malgré la vive rougeur qui colorait ses joues, elle s'écria en essayant de prendre un air nonchalant.
« Ah, vous veniez me chercher, je pense. Eh bien, regardez bien, et vous reconnaîtrez peut-être un ancien ami sous une forme nouvelle. »
Au premier moment, Mrs. O'Donoghue se trouva combattue entre une certaine alarme et la douce certitude que sa fille, comme ses prévisions le lui avaient toujours dit, avait inspiré une passion à un homme d'une parfaite élégance. Mais l'allusion de Patty à une ancienne connaissance ayant attiré tout particulièrement son attention, la lumière se fit soudain pour elle, et posant aussitôt sa main sur le bras de son époux, elle le força à rétrograder d'un pas ou deux en lui disant à l'oreille, comme dans les apartés de théâtre, de façon que tout le monde entendit
« Regardez, regardez, O'Donoghue, et dites-moi quelle est la personne qui est devant vos yeux. »
Monsieur O'Donoghue était fort rouge, fort mécontent d'avoir trouvé sa fille en train de folâtrer en tête-à-tête avec un étranger. Mais l'accent de la voix de sa Barnabée agit sur lui comme l'huile sur l'eau. Il se contint, regarda fixement le jeune gentleman et s'écria « Miséricorde ! Mais non ! Mais si ! Est-ce bien possible ?» Patty, qui le guettait de très près, vint alors se placer en pendant à sa mère et s'appuyant sur l'autre bras de M. O'Donoghue, elle lui dit
« Non seulement c'est possible, mais c'est positif. C'est bien notre cher Jack. »
« Et je vous en prie, Miss Patty, où l'avez-vous trouvé ?»«
Où je l'ai trouvé ? Dans la rue. » »« Non, on n'a jamais vu pareille chance. N'est-ce pas, Jacques, que vous avez été bien ravi en me revoyant ?»
Le pauvre Jack était fort mal à l'aise. Il aurait volontiers donné une phalange de son petit doigt pour esquiver la réponse qu'on lui demandait, voire même deux phalanges pour que cette sotte aventure n'eût jamais eu lieu.
« Dites, Jack, n'est-ce pas que ça a été une fière chance que notre rencontre ?» réitéra la jeune fille. « Et maintenant, ajouta-t-elle, que nous avons échangé nos cheveux, nous voilà joliment liés l'un à l'autre. »
Et tout en disant ceci, elle montrait triomphalement son trophée, tandis que, des yeux, elle indiquait à son père et à sa mère la petite boucle brune, actuellement bien ébouriffée, que l'infortuné jeune homme tenait encore entre ses doigts. Heureusement pour lui, M. O'Donoghue lui évita l'embarras de répondre. Vous ne serez pas surpris, monsieur, je suppose, si je me permets de vous demander votre véritable nom, dit-il.
Jacques est frappé de mutisme, papa, s'écria Patty en riant. Mais moi, je vais vous le dire, son vrai nom. Il s'appelle Cédé, ce qui se rapporte parfaitement à la fourchette. Vous savez, maman.
Monsieur O'Donague, s'écria tout à coup le jeune homme, paraissant céder à une résolution soudaine. Voulez-vous me permettre de vous entretenir en particulier pendant 5 minutes ?
Grand Dieu du ciel, pensa Mistress O'Donague. Songerait-il à épouser l'enfant ?
Le voilà qui va aborder la question, aussi vrai que je m'appelle Patty, se dit la jeune fille.
Quant à M. O'Donague, il avait pressenti au ton sur lequel la demande avait été faite qu'il ne s'agissait pas de sa fille. Mais sa curiosité était assez excitée pour qu'il rendît une réponse favorable. Et sur l'assurance donnée par Patty qu'il n'était pas possible de passer dans une autre pièce, le jeune gentleman, prenant son chapeau sans toucher à la pauvre petite boucle de Patty qui gisait sur la table, proposa de descendre faire un tour dans Hyde Park.
« Je crois à peine nécessaire de vous dire, monsieur O'Donago, commença le jeune homme, qu'une folie de jeunesse peut seule servir d'excuse à la liberté que j'ai prise de me présenter à vous sous un faux nom.
« Je suis heureux, mon cher monsieur, de voir qu'il n'y avait pas là une cause plus grave.
« Monsieur, repartit le jeune homme avec beaucoup de hauteur.
Je craignais que quelque malencontreuse affaire d'honneur n'eût rendu un si grand éloignement de la patrie, sinon nécessaire, du moins prudent.
Non, monsieur, grâce à Dieu, je n'ai rien d'aussi irréparable sur la conscience. Resté très jeune orphelin et possesseur d'une grande fortune, n'ayant pour toute famille qu'une sœur plus jeune que moi, j'eus naturellement un tuteur pour lequel, bien injustement, je conçus une aversion insurmontable. Lorsque j'eus fini mes études à Eton, je voulus entrer dans les gardes, mon tuteur s'y opposa. De là une très sérieuse querelle entre nous, suivie de la déplorable idée de m'expatrier sous un nom supposé, à l'insu de tous, excepté de ma sœur. Je m'engageai donc comme matelot à bord de l'Atalante, confiant une partie de mon secret au capitaine et à l'équipage, afin que personne ne s'étonnât de mon ignorance en matière nautique, et aussi pour pouvoir me procurer quelques douceurs. À peine arrivé à Sydney, je reçus de ma seule confidente l'avis que mon tuteur, qui me croyait caché aux environs de Londres, était en proie à un vrai désespoir, s'accusant sans cesse d'avoir agi avec trop de sévérité. Ma sœur me suppliait de revenir au plus vite, en cachant mon identité avec le plus grand soin, afin que mon tuteur ne sût jamais toute l'étendue de ma folie. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu immédiatement, j'ai reconnu tous mes torts, et mon honorable tuteur, ayant eu la délicatesse de ne me faire aucune question, mon voyage est resté parfaitement inconnu. Nous sommes actuellement dans les meilleurs termes. Je suis entré dans l'armée avec le grade que j'ambitionnais, et vous devez comprendre facilement, monsieur, combien il me serait pénible que notre rencontre sur le bateau arrivât à s'ébruiter. C'est le secret le plus absolu que je viens réclamer de votre courtoisie, vous suppliant de plus de vouloir bien employer votre influence sur ces dames à ce sujet. Vous pouvez compter, mon jeune ami, que votre secret est en parfaite sûreté avec moi, répondit M. O'Donague avec bonté. Et quant à la discrétion de ma femme et de ma fille, je puis vous affirmer que je n'ai nulle crainte. Malgré son air léger, Patty est une très bonne fille, et pour vous, cher Jack. Mais il n'est plus question de vous donner ce nom familier. Et serait-il indiscret de vous demander si réellement vous vous appelez Cédé ?
Non, monsieur, ce n'est pas là mon nom, répliqua le jeune homme en rougissant.
Il se fit un silence assez embarrassant. Ce fut le jeune homme qui le rompit par ces mots.
Je mets votre bonté, monsieur, à une rude épreuve, aussi bien par mes confidences que par mes restrictions.
Mais enfin, reprit gravement monsieur O'Donague, est-ce votre désir que nous continuions à vous appeler monsieur Cédé ?
Que n'aurait pas donné le Jack d'autrefois pour pouvoir dire qu'il espérait bien ne plus jamais se retrouver en situation d'être interpellé par aucun membre de la famille ? Aussi hésita-t-il avant de répondre :
Oui, monsieur.
Et il ajouta :
Mais je crois qu'il serait temps de retourner sur nos pas. Acceptez, je vous prie, tous mes remerciements pour l'obligeance que vous avez mise à écouter ma ridicule histoire. Tout d'abord, M. O'Donaghue suivit l'impulsion donnée par son compagnon. Mais, n'étant que fort peu satisfait du résultat de la conférence, il reprit « Avant de nous séparer, mon cher monsieur, veuillez me permettre une petite observation. Une demi-confidence ne vaut jamais rien. Mon Dieu, je ne suis pas plus curieux qu'un autre, quoique je ne nie pas avoir un vif désir de connaître votre véritable nom. Mais d'une façon ou d'une autre, j'arriverai à le savoir. Voici la saison qui s'avance. Bientôt, nous nous rencontrerons dans le monde. Beaucoup plus que vous ne sauriez vous y attendre. Je parle peu généralement de mes relations, quoiqu'elles soient fort belles. La famille de ma femme est très haut placée. Vous avez peut-être entendu Mrs. O'Donaghue parler de sa famille ?»« Non, monsieur, jamais, » répondit le jeune homme d'un ton sec. « Vous m'avez dit, je crois, que vous étiez dans l'armée. Vous connaissez sans aucun doute le nom du général Hubert ?»« Le nom du général Hubert ?» s'écria le jeune garde en s'arrêtant tout à coup. « Assurément, oui, je le connais. » Puis, regardant ardemment M. O'Donaghue, il ajouta « Puis-je vous demander pour quel motif vous me faites cette question ?»« La femme du général est la nièce de Mrs. O'Donaghue, » répondit tranquillement l'ex-major. Cette révélation, qui avait été faite sans arrière-pensée, ne soupçonnant pas que le jeune officier pût être plus intimement lié avec le général Hubert qu'avec 50 autres généraux de l'armée, produisit un effet tel que son auteur comprit tout de suite le parti qu'il en pouvait tirer. Le jeune homme changea de couleur, bégaya quelques mots et enfin s'écria « C'est vraiment une étrange coïncidence. Je connais très bien le général, je le connais beaucoup. Et vraiment, puisqu'il en est ainsi, monsieur, je ne saurais me taire plus longtemps. Je suis Sir Henry Seymour. Puis-je espérer avoir déposé mon secret en sûreté ?» « N'en doutez pas, mon jeune ami !» s'écria M. O'Donaghue en tendant ses deux mains dans lesquelles le jeune baronnet eut quelque peine à se décider à placer l'une des siennes. « Et maintenant, cher Sir Henry, retournons auprès de ces dames. Vous êtes bien bon, mais je vous prierai de m'excuser, j'ai affaire immédiatement au Horse Guard. Bonjour !»« Pour l'amour de Dieu, mon cher Sir Henry, dites-moi où je pourrai vous retrouver, car j'ai encore 50 choses à vous dire. » Mais je vais vous accompagner. J'ai trop envie de savoir par quel miracle un jeune homme aussi gai, aussi en train que vous, se trouve lié intimement avec un homme aussi roide que mon beau-neveu, le général Hubert. C'est Sir Edward Stephenson qui a été mon tuteur, répondit Sir Henry, réprimant mal la contrariété qu'il éprouvait à faire cette confidence. Ah, je comprends tout. Lady Stephenson est la propre sœur de Hubert. Et M. O'Donaghue, se laissant aller à sa loquacité facile, se mit à passer en revue tous les membres des familles Hubert et Stephenson, de façon à ne laisser aucun doute sur le degré d'intimité dans lequel il était avec elle, insistant en passant sur le doigt de cour que faisait à Patty le second fils du général, en même temps que sur la répugnance manifestée à cet égard par la jeune fille. Sa fille, ajoutait-il, avait certainement quelque chose en tête, mais quoi, Dieu seul le savait. Quant à Compton, il était si jeune qu'il aurait bientôt oublié sa passion malheureuse. Pendant tout ce discours, le pauvre baronet se sentit navré par cet enchaînement de circonstances qui le forçait, pour ainsi dire, à continuer des relations avec sa connaissance du bateau, ne fût-ce que par reconnaissance pour les Hubert, qui s'étaient toujours montrés parfaits pour sa sœur et pour lui. Ce n'est que sous l'arcade des Horse Guards que M. O'Donaghue se sépara enfin de son jeune compagnon. Le cœur gonflé de joie, le vieil aventurier voyait se dérouler devant lui tout un avenir de petites soirées lucratives passées à son foyer et, comme couronnement de l'édifice, non seulement un splendide mariage pour sa belle Patty, mais pour lui l'ouverture de ce monde élégant dans lequel il avait si grand désir de pénétrer. Le secret qu'il tenait lui mettait un jeu magnifique entre les mains, restait à en tirer le meilleur parti. Quand il atteignit Brompton, les demoiselles Perkins étaient rentrées et le caquetage féminin qui parvint à ses oreilles, tandis qu'il montait l'escalier, lui fit l'effet de la trompette annonçant le retour du vainqueur. À peine fut-il entré que Mrs. O'Donaghue s'écria « Vite, vite, Donny, comment s'appelle-t-il » M. O'Donaghue promena sur le petit cercle un regard bénin.
Voyons, papa, ne restez pas ainsi à faire la grimace !» cria Patty en se précipitant vers lui et en le saisissant par le collet de son habit.
« Dites-nous tout de suite ce que vous savez, ou vous verrez qu'il ne fait pas bon me taquiner. »«
Vous taquinez, ma beauté ? Non, sur ma foi, je ne vous taquinerai jamais plus. Car pour une jeune personne de 15 ans, vous avez mis la main sur la plus jolie affaire d'amour que jamais parent ait pu désirer. Le gentleman se nomme Sir Henry Seymour, mesdames, et possède, comme j'ai de fortes raisons de le croire, une grande fortune avec de fort belles relations. »
« Ah, grand Dieu, pensez donc !» dit Miss Perkins l'aînée.
« Ma Patty adorée !» s'écria la cadette. « Combien je vous souhaite de bonheur !»«
Personne n'a jamais douté que ma fille ait dû faire un brillant mariage !» dit Mrs. O'Donoghue avec la plus grande dignité. Quant à Patty, quel que fût le rang auquel elle devait être appelée un jour, elle n'avait pas encore acquis une parfaite possession d'elle-même. Frappant dans ses mains, tout en faisant sur le parquet des bonds prodigieux, elle s'écriait
« Je serai donc Milady, alors, quand je serai la femme de Jack. Bien vrai, papa, sur votre honneur !»